j'ai couru en fermant les yeux.
Nous sommes le jeudi 8 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous avons développés ce matin. En football, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, bat la RD Congo et rejoint le Nigeria en finale. L'Union européenne demande au Sénégal de rétablir le calendrier de la présidentielle après que Washington a jugé non légitime le vote du report. Intensification des combats entre les rebelles du M23 et l'armée dans l'est congolais. L'ONU appelle à la diplomatie pour éviter une déflagration régionale. Un commandant d'un groupe pro-Iran tué dans une frappe américaine à Bagdad. Eh bien oui, nous démarrons avec du football. L'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations est connue. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, affrontera le Nigeria dans 3 jours. Sans plus tarder, voici le journal de la CAN avec Yacouba Bredrago, notre envoyé spécial à Abidjan.
Bonjour à tous. Et oui, la miraculeuse Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier pour la finale de sa CAN. En battant la République démocratique du Congo 1-0 au stade Alassane Ouattara de Bempe, ici à Abidjan, le Nuc Brits a été signé Sébastien Haller. Analyse de cette demi-finale avec le sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, Emers Faye.
Deux ou trois fois, ils ont réussi à trouver derrière notre ligne des milieux la Kakuta. Donc ils ont posé quand même quelques problèmes, mais dans l'ensemble, non, je pense que ce n'est pas spécialement la bataille du milieu qu'on a gagnée. Je pense que collectivement, on a été assez intéressant. Dans les périodes où on était bien, que ce soit au début ou après la 30e, on a quand même pas mal combiné sur les côtés pour mettre beaucoup de centres, parce qu'on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas forcément défendre sur des centres en allant vers leur but. Donc non, on a été solide aussi défensivement. Donc dans l'ensemble, je pense que c'était une victoire d'ensemble, pas juste une victoire de bataille de milieu de terrain.
Emers Faye, sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens reviennent ainsi de loin, et qui avaient été presque éliminés après la phase de groupe, avant de bénéficier d'une victoire marocaine pour arracher leur ticket pour la suite. Menés en 8e de finale face au Sénégal avant de s'imposer au tir au but, les éléphants ont subi le même sort devant le Mali en quart où ils se sont imposés en prolongation 2-1. Cette fois-ci, face à la République démocratique du Congo en demi, ils ont pris les choses en main. Désormais, l'homme du match, Franck Kessié et ses coéquipiers, visent le sacre final.
Après, on a eu une chance. On a été repêché parmi les meilleurs troisièmes. Donc je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. On avait tout à gagner. Donc c'est ce qui explique ce parcours-là. Après, tu sors le tenant du titre qui est le Sénégal en 8e de finale. Donc franchement, après le tenant du titre, la voie elle est droite. Quoi.
Franck Kessié, joueur ivoirien, cet optimisme est partagé par les fans des éléphants.
On dit qu'on ne peut pas mourir de quoi. On peut pas prendre la coupe là, on a déjà gagné. On est confiants.
Ça n'a pas été facile, mais on ira jusqu'au bout. On a en demi-finale, demi-finale, finale. On a gagné, on va croiser les Naija. On a gagné contre Gombolo, hein. Maintenant, on va aller croiser Naija là-bas, on va faire un billet.
Le Nigeria nous doit quelque chose. Le Nigeria nous doit quelque chose, on va se poser. Dimanche, ça va chauffer.
Les Léopards, eux, ne verront pas la finale et devront se préparer pour le match pour la 3e place samedi. Pour leur sélectionneur Sébastien Desabre, ils n'ont pas su profiter de leur temps fort dans cette rencontre.
Au départ, on l'avait, ce rapport de force, on ne l'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément gênant qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps faible, puisqu'on a les éléments pour pouvoir contrer. Mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation. Ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le faire, et ça fait la différence. Après, on a essayé de pousser. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la seconde mi-temps, mais on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles.
Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo. Le journaliste congolais Albert Mbaya lui pointe du doigt le coaching du technicien français.
Les Léopards ont montré une très belle image en début de cette CAN. Ils étaient en train de monter en puissance. Et cet après-midi contre les éléphants, c'était une équipe méconnaissable. Les Léopards, bien sûr. Déjà, la titularisation de Kakuta est un crime. C'est un joueur qui revenait. Je ne mets pas en doute les qualités de Gaël Kakuta. C'est un joueur exceptionnel. Mais il vient fraîchement d'une blessure qu'il a éloigné. De deux matchs, il n'a pas joué. Les titulariser, c'est purement amateur. Ça, je n'ai jamais vu ça. Un joueur, on le récupère petit à petit. On lui donne quelques minutes. Les titulariser a été amateur.
Albert Mbaya, journaliste congolais. Les supporters des Léopards, eux, restent fair play.
Ils ont fourni les efforts qu'il fallait. Mais seulement que comme c'est le football, c'est un jeu, il fallait seulement qu'en sortant du stade, qu'il ait une équipe qui gagne et l'autre qui perde. Donc même si on partait en prolongation, en 1-1 ou en 0-0, finalement on n'allait pas dormir ici, il fallait forcément...
La finale de cette CAN 2023 va donc opposer dimanche 11 février le pays hôte, la Côte d'Ivoire au Nigeria, qui est venu à bout de l'Afrique du Sud au tir au but, après un score de 1-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les deux s'étaient déjà rencontrés en phase de poule, un match remporté par les Super Eagles 1-0 sur pénalty. Cette fois-ci, les Ivoiriens disent vouloir obtenir leur revanche. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Et voilà, un week-end palpitant en perspective pour les fans du ballon rond, mais pour l'heure, le monde aujourd'hui se poursuit. En République démocratique du Congo, les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés hier dans le territoire de Masisi. Un bilan fait état d'au moins 6 morts. Mohamedou Oumfa.
Selon des sources médicales et sécuritaires, au moins 6 personnes ont été tuées dans les bombardements de mercredi à Sake et tout au long de la journée, des milliers de personnes fuyant les combats. Les fuyant les combats sont arrivés à Goma, à une vingtaine de kilomètres. Nous nous sommes réveillés ce matin sous le bruit des détonations. Nous nous sommes rendus compte que nous allions tous mourir et avons décidé de fuir, a déclaré un Congolais avec deux matelas sur la tête. Un responsable administratif a précisé que les affrontements s'intensifiaient dans les collines autour de Sake, qui se vidaient de ses habitants. Mais administrés fuient vers Goma, a-t-il indiqué. Le soir, les choses semblaient se calmer, selon des habitants qui faisaient tout de même état des détonations, qui n'avaient plus la même ampleur que celle de la journée.
Pour le chef des opérations de paix des Nations Unies, la situation dans le Nord Kivu est très préoccupante. Elle fait planer le risque d'une déflagration régionale, a dit Jean-Pierre Lacroix hier, de retour d'une visite dans la région orientale de la RDC, effectuée pour évoquer le désengagement à venir dans le pays de la MONUSCO, la mission onusienne. Compte tenu de la dégradation de la situation dans cette zone, il est essentiel que les efforts diplomatiques reprennent, a-t-il ajouté, en parlant notamment du processus de Luanda visant à rapprocher la RDC du Rwanda à couteau tiré depuis la résurgence du M23. Après le bloc ouest-africain de la CEDEAO, l'Union européenne encourage le Sénégal à rétablir le calendrier initial de son élection présidentielle. L'UE, qui se dit très préoccupée, est d'avis que le report du scrutin au 15 décembre entache la longue tradition de démocratie du pays et ouvre une période de grande incertitude. Quant à l'opposition sénégalaise, qui crie au coup d'État constitutionnel, elle appelle à un large front pour faire reculer le président Macky Sall. Joseph.
11 candidats sur les 20 retenus par le Conseil constitutionnel ont fait face à la presse hier à Dakar. Cheikh Tidiane Youm, représentant d'un des candidats, a dit qu'il appartient à ce collectif de procéder à une convergence de toutes les forces vives de la nation. Le Front va contacter toutes les forces pour la création d'une plateforme beaucoup plus large pour libérer notre pays des mains du président Macky Sall, a déclaré Détier Fall, un autre candidat. Les intervenants ont tour à tour appelé les candidats, les syndicats, les chefs religieux et coutumiers à s'associer à leur démarche. Ils ont affirmé maintenir le 25 février comme jour du scrutin et poursuivre leur campagne électorale, dont le démarrage était prévu dimanche. Le collectif a aussi demandé aux organisations régionales et internationales de ne plus reconnaître le président Macky Sall comme chef de l'État au-delà du 2 avril, date officielle de la fin de son mandat, avant que l'Assemblée nationale ne le prolonge jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Ce report de la présidentielle a plongé le Sénégal dans l'une de ses pires crises depuis son indépendance en 1960.
De leur côté, les États-Unis jugent que le vote du Parlement sénégalais qui reporte la présidentielle et prolonge le mandat du chef de l'État Macky Sall n'est pas légitime. Réaction la plus tranchée à ce jour d'un allié de Dakar devant cette modification de dernière minute du calendrier électoral. Également dans l'actualité, 10 jours après leur annonce choc, le Burkina, le Mali et le Niger affirment vouloir quitter la CEDEAO dès maintenant et non dans un an, comme le stipulent les règles. Dilidiko.
Les trois pays ont annoncé le 28 janvier leur retrait de la CEDEAO et ont envoyé le lendemain une notification formelle à l'organisation. Le traité de mise en place de la CEDEAO dispose que les pays membres restent tenus par leurs obligations pendant une année après avoir notifié leur retrait, un délai auquel les trois pays ne comptent pas se plier. Le Mali n'est plus lié par les contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité, affirme le ministère malien des Affaires étrangères dans une lettre à la CEDEAO. Au Burkina Faso, un courrier similaire du ministère des Affaires étrangères à la CEDEAO réitère la décision de retrait sans délai et son caractère irréversible. Même son de cloche du côté de Niamey. La CEDEAO doit tenir ce jeudi à Abuja une réunion ministérielle pour discuter de la situation politique et sécuritaire dans la région.
Au Ghana, le vice-président Mahamudu Bawumia a donné le coup d'envoi à sa campagne présidentielle hier. Nani Talani.
Malgré l'économie difficile dont nous avons hérité, nous avons dû nous atteler à la tâche et commencer à résoudre les problèmes, a déclaré Mahamudu Bawumia dans un discours à l'occasion d'un forum organisé à Accra pour présenter sa vision de la présidence à 10 mois du scrutin. Dans un auditorium de 5000 places plein à craquer et en présence de nombreux ministres et responsables du gouvernement, de leaders religieux et de diplomates, M. Bawumia, ancien gouverneur adjoint de la Banque centrale, a déclaré qu'il ferait du secteur privé le moteur de la croissance pour créer davantage d'emplois pour les jeunes et développer les infrastructures. Il a également déclaré qu'il réduirait le nombre de ministres à environ 50 contre 110 actuellement nommés par le président sortant Nana Akufo-Addo en 2017. L'économie sera un thème majeur de la campagne, l'opposition cherchant à présenter l'accord avec le FMI comme une preuve de l'échec de la gestion du parti au pouvoir. Le président sortant Nana Akufo-Addo se retire après 2 mandats alors que l'économie sort de l'une de ses pires crises depuis des décennies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un haut commandant des brigades du Hezbollah, un groupe armé irakien pro-Iran, a été tué hier soir par une frappe américaine ciblant son véhicule dans la capitale irakienne. Washington l'accuse d'être impliqué dans la planification des attaques contre ses soldats au Moyen-Orient. Eric Manirakidza.
Abou Bakir al-Saadi, un haut commandant des brigades du Hezbollah, a été tué hier mercredi dans cette frappe américaine, a annoncé le groupe dans un communiqué. Il était chargé du dossier militaire en Syrie, a indiqué un responsable de cette faction. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, a confirmé la frappe, affirmant avoir visé un commandant des Kataeb Hezbollah, responsable d'attaques contre les forces américaines dans la région. Cette attaque a entraîné la mort de 3 personnes, dont 2 chefs des brigades du Hezbollah et leur chef dans le quartier de Mashtal à Bagdad. En réaction à la mort du commandant Abou Bakir, le mouvement irakien Al-Nujaba, affilié à la résistance islamique, a promis une riposte ciblée, tandis que les tensions persistent entre les États-Unis et les groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, boucle sa tournée au Moyen-Orient aujourd'hui par une rencontre avec le chef de l'opposition israélienne, Yahya Lapid, après des entretiens séparés hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas, le secrétaire d'État américain qui a jugé inacceptable des éléments de la réponse du Hamas palestinien, a néanmoins plaidé pour une nouvelle trêve dans la bande de Gaza permettant l'acheminement de davantage d'aide humanitaire
et la libération des otages. Anthony Blinken a également exhorté Israël à protéger les civils dans la poursuite de ses opérations militaires, alors qu'un nouveau round pour parler, parrainé par l'Égypte et le Qatar, s'ouvre au Caire aujourd'hui pour cette nouvelle trêve. Benjamin Netanyahou a dit hier avoir ordonné à l'armée israélienne de préparer une offensive sur la ville de Rafah à Gaza. Le Congrès américain a reporté à ce jeudi un vote sur une aide à l'Ukraine ou à Israël. Les sénateurs ont rejeté hier après-midi un texte qui aurait débloqué de nouveaux fonds pour ces deux pays en guerre et réformé le système migratoire des États-Unis. La plupart des républicains ont finalement voté contre, même ceux qui le soutenaient initialement. Le deuxième texte comprend l'aide aux deux pays, mais pas la réforme migratoire. Toujours ici aux États-Unis, le procureur spécial Robert Hur, chargé d'enquêter sur les accusations de mauvaise gestion de documents classés confidentiels par Joe Biden, a terminé son enquête, a déclaré hier au Congrès Merrick Garland, le ministre américain de la Justice, sans en préciser la conclusion.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Retour en République démocratique du Congo. Les combats entre les rebelles du M23 et l'armée se sont intensifiés dans le Massissi autour de Sake, cité considérée comme stratégique sur la route de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Face au risque de déflagration régionale, l'ONU appelle à une reprise urgente des efforts diplomatiques pour régler le conflit. Tout au long de la journée d'hier, des milliers d'habitants fuyant les affrontements meurtriers sont arrivés à Goma, d'où notre correspondant Zanem Neti Zaidi nous a envoyé ce reportage.
Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route Goma-Sake. Ces personnes fuient la cité des Sake à 27 km à l'ouest de Goma où les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient. Eric Tuissabe s'est enfui à moto avec ses 4 enfants, leur objectif étant de rejoindre Goma, espérant être à l'abri des bombardements qui minent la cité des Sake.
Je peux dire au gouvernement d'être clair sur cette situation. Il y a une carte qui se joue. Il vaut mieux faire la lumière sur la situation au lieu de laisser nos jeunes mourir au front, qu'ils nous disent ce qui ne marchait pas.
Les centaines de déplacés qui affluent à Goma, espérant se mettre à l'abri du danger, semblent se jeter dans la gueule du loup. 3 explosions des bombes ont été signalées dans l'ouest de Goma, causant des dégâts matériels et humains, une situation qui suscite la peur à Goma. Kavira Daliv a été témoin d'une explosion.
Je n'ai pas pu aller voir les blessés. J'ai eu très peur et je ne pouvais pas me déplacer car l'explosion a eu lieu à quelques mètres de ma maison.
Le centre de santé Mugunga 3 a été endommagé par une explosion qui n'a heureusement pas fait de victimes humaines. Étienne Abamugisha, infirmier traitant, demande les autorités à redoubler d'efforts dans la recherche de la paix.
Si la situation continue ainsi, nous risquons de ne plus travailler car personne ne viendra se faire soigner à l'hôpital de peur d'être tué par les bombes. La peur s'installe et les patients ne veulent plus être hospitalisés.
Lundi dernier, le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba a annoncé que les autorités feront tout pour que Goma ne tombe pas entre les mains des rebelles du M23, mais les combats intenses se poursuivent sur les collines surplombant Sake. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Mali, depuis plus de 4 mois, Bamako vit au rythme des coupures de courant inédites et intempestives, entraînant l'arrêt de nombre d'activités. Les enquêtes ouvertes et les emprisonnements n'ont jusque-là pas permis de trouver une solution aux grandes dames des Maliens. Reportage de Mohamed Danioko, correspondant de VOA Afrique dans la capitale malienne.
Se promener de quartier en quartier pour trouver ou recharger son téléphone ou son ordinateur est devenu le quotidien de nombreux Bamakois depuis plusieurs mois. L'emprisonnement d'anciens ministres et de cadres de la société Énergie du Mali à la mi-janvier ne semble pas être la solution. Badou Koba, journaliste.
L'État doit chercher à résoudre les problèmes au lieu de les déplacer. Les arrestations, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Il s'agit de détournement de carburant et autres, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, c'est le problème technique et c'est les populations qui en pâtissent. Les petites et moyennes entreprises sont en train d'arrêter. Imaginez ceux qui vendent les poissons de mer qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'en peuvent plus. Beaucoup ont mis les clés sous les pinceaux. Au-delà de ça, ceux qui vendent les poulets de chair, les boutiquiers qui vendent les laits caillés et autres là. Au niveau de nos hôpitaux, ça ne va pas. Et beaucoup de morales sont en train de mourir faute d'électricité. Les soudeurs ne travaillent plus. Et les boulangers, n'en parlons pas. Les tailleurs passent toute la journée en train de dormir. Donc il y a une paralysie générale. Il va falloir trouver une solution à cela. Parce que ça, c'est une bombe à retardement comme ça.
Sans électricité et avec la saison chaude qui pointe, le ramadan qui débute dans un mois risque d'être compliqué, surtout pour les personnes âgées. Docteur Abdoulaye Sanogo, médecin.
Si il n'y a pas d'électricité, plus la chaleur, ça ne fait qu'aggraver la chaleur. Donc toujours il faut avoir de l'alternative. Il faut toujours pour répondre à ça. Hein? Voilà. On doit avoir d'autres moyens pour en tout cas essayer de se mettre à l'abri de cette chaleur. Comme l'électricité n'est pas en tout cas permanente, on n'en a pas suffisamment. Mais est-ce qu'on va rester dans la chaleur? On doit avoir des moyens pour en tout cas se protéger contre la chaleur.
Si cette période risque d'être critique pour les personnes âgées, il risque de l'être aussi pour les autorités de la transition si le problème n'est pas réglé à temps. Badou Koba, journaliste.
Le mois de Karim Kamil, c'est un mois particulier, c'est le mois béni du Ramadan. Donc le musulman doit vraiment observer strictement le jeûne, il doit se priver de nourriture durant toute la journée. Et au moment de la rupture, s'il n'a pas d'eau fraîche, s'il n'a pas de quoi boire, ça va l'énerver, ça va l'aigrir davantage. Donc je dirais tout simplement que c'est le mois de tous les dangers. Donc il faudrait que le mois de Karim trouve que le problème de l'électricité est résolu.
Habitué à recharger gratuitement les compteurs prépayés, les nouvelles tarifications de EDM font déjà grincer des dents. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Un accord a été paraphé hier en Afrique du Sud entre le géant du négoce Trafigura et la compagnie minière Ivanhoe Mines pour l'exportation par rail du cuivre de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un méga projet d'infrastructure partiellement financé par les États-Unis. Le couloir Lobito, le plus ambitieux projet américain d'infrastructure sur le continent africain, vise à relier la Zambie et la RDC au port de Lobito en Angola, ouvert sur l'Atlantique. Washington s'est engagé à financer 1300 km de voies ferrées dans ce projet, pesant 555 millions de dollars, et veut étendre le projet jusqu'à la Tanzanie. L'annonce intervient dans le cadre du Mining Indaba, une conférence mondiale de 3 jours qui prend fin aujourd'hui à Cape Town, où se trouve Johann William Sponsis, porte-parole de langue française du département d'État américain. Eric Manirakidza s'est entretenu avec lui.
Et un des objectifs faits du gouvernement américain, c'est de promouvoir le partenariat pour la sécurité des minéraux, ou le Mining Security Partnership, qui est une initiative américaine avec quelques partenaires, quelques autres pays partenaires, pour en fait promouvoir un investissement responsable dans le secteur minier en Afrique. Le partenariat vise à sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement et approfondir les liens commerciaux entre l'Afrique et les pays de l'Ouest.
Comment le partenariat envisage-t-il d'adresser les défis spécifiques tels que l'exploitation illégale, le trafic et les conflits associés à l'industrie minière?
Le partenariat a pour objectif non seulement l'exploitation des ressources naturelles du continent, mais aussi à établir en Afrique la chaîne de valeur pour leur exploitation. C'est-à-dire, on ne va pas demander aux pays africains d'exporter leurs ressources naturelles comme qu'elle est, mais aussi pour transformer des ressources, pour transformer des minéraux, pour avoir une partie plus importante de la chaîne de valeur pour les produits finaux. Et aussi, je veux mentionner que sous le partenariat, on envisage à attirer un investissement plus responsable pour le continent, un investissement dans le secteur minier, des compagnies, par exemple, des initiatives qui respectent les droits de l'homme, les droits des ouvriers, et aussi l'intégrité de l'environnement.
Quelles mesures concrètes Washington prévoit-il de prendre pour renforcer la collaboration avec les gouvernements africains et les acteurs locaux afin de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement durable dans le secteur minier africain grâce à ce partenariat?
Le gouvernement américain et ses partenaires internationaux essaient d'attirer pour le secteur minier en Afrique. Ce sont des compagnies plutôt occidentales, qui respectent les normes démocratiques, les droits humains, etc., dans le secteur. Et il est important à noter que ces compagnies, elles doivent répondre au système judiciaire dans leur pays d'origine et aussi à leurs actionnaires. Lorsqu'on attire dans le secteur un investissement plus large de l'Occident, on peut compter sur des investissements plus responsables et des compagnies plus respectueuses des intérêts des peuples africains.
Johann William Schmanzis, porte-parole de langue française du département d'État américain et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique, joint dans la ville sud-africaine du Cap. Un nouveau sondage indique que les Américains sont préoccupés par la gestion de l'économie par le président démocrate Joe Biden, malgré les annonces répétées de son administration faisant état de chiffres économiques positifs. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche.
Selon l'administration Biden, l'économie américaine est en plein essor. La vice-présidente Kamala Harris en campagne électorale en Caroline du Sud.
Over the past three years, President Biden and I have lowered costs.
Au cours des trois dernières années, le président Biden et moi avons réduit les coûts, créé des opportunités et bâti une économie qui fonctionne pour les travailleurs. Nous avons créé 14,5 millions d'emplois et augmenté les salaires de dizaines de millions d'Américains. La confiance des consommateurs est en hausse et leurs dépenses de consommation ont atteint un niveau record. Et même si nous avons encore du travail à faire, soyons clairs, l'économie américaine continue d'être la plus forte au monde.
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, est également optimiste.
Nous avons l'impression que l'inflation diminue, la croissance a été forte, le marché du travail est solide. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier une position confortable de l'inflation en la ramenant à 2% afin que nous puissions revenir sur la limitation.
Toutefois, un nouveau sondage du cabinet de recherche Ipsos montre qu'une minorité d'Américains approuve la politique économique de Joe Biden. Cliff Young, président des affaires publiques d'Ipsos.
Biden aborde 2024 dans une position affaiblie. Nous l'avons à ce stade avec un taux d'appréciation de 38%. Et c'est important car, d'après notre expérience, un président en exercice avec un taux de plus de 40% a plus de chances de remporter les élections.
Comme la plupart des consommateurs, les partisans de Joe Biden reconnaissent subir l'inflation de plein fouet. Sondra Trower, lors du vote de la primaire démocrate en Caroline du Sud.
Les prix des produits d'épicerie sont élevés, plus élevés que ce que nous avons vu pendant un certain temps. L'essence aussi, mais ce qui m'encourage, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires commencent à baisser.
De son côté, le challenger de Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, vante son sens de l'économie auprès des électeurs, tout en faisant face à 4 affaires pénales et à 1 jugement civil pour fraude commerciale présumée.
Et voilà, le monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 8 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.